Bova, je suis Horacio González. Le petit accent que vous arriverez à percevoir vient du fait que je suis espagnol, mais j'ai passé la moitié de ma vie en Bretagne. C'est simplement que les accents ne se parlent pas. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop.
Donc là, et bien maintenant, c'est une expérience roubaisienne que vous avez et qui se développe, bien sûr, au travers le monde.
Se développe à travers le monde. Moi, je suis directeur de la partie de FRL, Developer Relations, chez OVH Cloud. Et OVH Cloud, c'est un pur produit des Nord, les quartiers généraux, les sièges historiques de l'entreprise. Il est à Roubaix, ainsi que nombreux data centers. On a aussi une usine de fabrication à Croix. En fait, tous les centaines de milliers de serveurs dans tous nos data centers autour du monde sont produits soit dans l'usine de Croix, soit dans l'usine jumelle au Canada. Donc pour nous, le Nord, c'est vraiment le berceau historique de l'entreprise.
Alors aussi, il faut considérer que localement, Roubaix, Tourcoing, etc., toute l'industrie s'est effondrée à un moment donné et que vous avez des locaux qui sont dans des anciens sites industriels et que vous avez pu remettre en condition pour vos applications, vos travaux et votre équipement.
C'est le cas, et certains de nos data centers de Roubaix sont sur des anciens bâtiments industriels parce qu'un des avantages qu'on a, c'est de faire de fabriquer nous-mêmes nos serveurs, nos ordinateurs et tout le matériel de nos data centers. Ça s'adapte très bien dans des bâtiments déjà existants. On n'est pas obligé de raser l'ancien bâtiment industriel, on peut l'adapter et le donner une deuxième vie en tant qu'un data center de dernière génération. Je ne vais pas me la jouer green sur ça, parce qu'à la base, il y a un intérêt pour tout le monde, il y a un intérêt économique. C'est moins cher de récupérer un bâtiment à l'abandon et le remettre en état. C'est mieux pour les collectivités parce que c'est friche industrielle, du coup, il y a une deuxième vie. C'est mieux pour tout le monde et accessoirement, c'est beaucoup mieux pour la planète si ces bâtiments-là, si on n'est pas obligé de couler des tonnes et des tonnes de béton pour faire un nouveau bâtiment. Donc c'est un calcul qui est très positif pour tout le monde impliqué. Et en général, ce type de calcul, c'est un peu la façon de faire de OVH Cloud. Le fait de fabriquer nous-mêmes nos serveurs, pendant longtemps, on nous a dit « Mais pourquoi vous vous embêtez? Allez acheter des serveurs des grands constructeurs. » Mais ça nous permet, par exemple, que quand on fabrique nous-mêmes nos serveurs, on peut les donner une deuxième, une troisième vie. Quand nos serveurs haut de gamme commencent à être un peu dépassés, on les démonte, on récupère tous les composants dans notre usine et les composants qui sont en bon état, on crée une autre gamme de serveurs moins chère. Et c'est bon pour nos clients parce qu'il y a plusieurs gammes à choisir. Ils peuvent choisir les haut de gamme ou ils peuvent choisir des serveurs de deuxième, de troisième ou de quatrième vie qui vont avoir des prix conséquents. C'est bon pour nos clients. Mais c'est bon aussi pour nous parce qu'on n'est pas obligé d'acheter de nouveaux serveurs pour ça. Et c'est très bon pour la planète parce que la fabrication des composants, ça reste une source. Il faut des matériaux, des terres rares et tout ça. Donc si on peut être sûr que chaque composant, il est utilisé plutôt que pendant 3 ans, pendant 12, ça change complètement la donne. C'est très bon pour la planète. C'est de bonne logique de notre point de vue pour nous, pour notre activité et surtout pour nos clients.
Alors, des data centers, il y en a beaucoup dans le monde. Est-ce qu'ils sont connectés? Est-ce que vous, dans votre entreprise, vous avez une autonomie de vos serveurs? Est-ce qu'ils restent, en gros, chez vous, maîtrisés par vous? Et ensuite, est-ce que ces serveurs évoluent dans le temps pour être peut-être plus économes en électricité, par exemple? Où on en est? Parce que là, on parle beaucoup d'économie d'énergie. Est-ce que vous tiendrez le coup?
Je vais vous répondre, mais je peux faire un spoiler. On est parmi les meilleurs au monde en termes d'économie d'énergie, justement pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc nous, on a actuellement 33 data centers actifs dans le monde. Je ne sais pas si c'est 33 ou 34 les dernières chiffres avec les dernières qui sont sorties. Et tous ils sont reliés par de la fibre optique et aussi notre réseau OVH en propriété. Donc on a tous nos data centers reliés, on a notre réseau de fibre optique et ce qu'on appelle des points de présence, c'est-à-dire dans des villes ou des endroits où on n'a pas de data center, on a quand même un très réseau pour être sûr qu'on peut communiquer rapidement depuis cet endroit-là jusqu'à nos data centers. Donc on a un réseau qui on est autonome, nos communications internes passent que sur notre réseau à nous, bien entendu, et on est complètement indépendant pour ça. Et sinon, sur la construction des serveurs, nous on évolue tout le temps. Ça fait une vingtaine d'années, on a commencé à investir dans une technologie qui à l'époque on nous accusait aussi d'être fous, c'était les water cooling. C'était nos serveurs étaient réfrigérés par de l'eau, basiquement. Et à l'origine, ça a commencé comme une expérimentation et on a investi beaucoup en recherche et développement sur ces parties-là. Et aujourd'hui, de fait, dès qu'on construit tout nous-mêmes, quand on met un rack, une armoire à serveur dans nos data centers, cette armoire à serveur, on les connecte directement à l'électricité, au réseau et à l'eau. Et tous les serveurs, ils arrivent sur cette armoire, ils s'éclipsent et ils sont alimentés en électricité et réseau, mais aussi en eau. Ça veut dire que nous, en termes de, par rapport à la plupart des autres data centers, nos data centers n'ont pas besoin de climatisation. Il y a directement l'eau qui va jusqu'au plus, ça va refroidir. Et on est de ce fait-là beaucoup plus économe en consommation énergétique que la moyenne mondiale. Et on est très économe aussi, on a beaucoup perfectionné ça pour assurer que l'eau qu'on utilise, elle n'est surtout pas gaspillée. Donc on est, par rapport à d'autres systèmes de water cooling, parce que maintenant il y a d'autres providers qui se sont mis au water cooling, notre système reste très très performant, on gaspille beaucoup moins et on utilise parmi les meilleurs au monde en termes d'utilisation de l'électricité.
Donc depuis peu de temps, hein, l'énergie, le prix de l'énergie flambe en France, pas seulement en France. Mm-hmm. Dans d'autres pays, par contre, l'énergie n'est pas chère. Est-ce que vous jugez que c'est une concurrence déloyale et est-ce que ça va vous pénaliser ?
Je dirais que pas vraiment, parce qu'un facteur important, c'est quand vous avez votre téléphone, vous voulez utiliser une application, quand vous travaillez dans votre laptop, vous voyez que les réponses arrivent vite. Et votre application, si elle va recevoir les réponses depuis un data center qui est en France, la latence, le temps que la réponse arrive, va être beaucoup plus réduite. Un data center qui est à des milliers de kilomètres, ça va être beaucoup moins fluide. C'est pour ça que tous les cloud providers, nous y compris, on a besoin d'avoir un maillage de data center partout dans le monde, parce qu'on veut que les clients aient un data center au plus proche. Donc là, ça veut dire que pour un marché français, il nous faut avoir des data centers en France et on ne va pas avoir de concurrence très grave par rapport au prix de l'électricité avec des data centers ailleurs. Mais pour nos clients allemands, on a notre data center allemand, en Pologne, nos data centers polonais. Et quelque part, ça aide à limiter cet effet de concurrence qui pourrait se créer de différents prix d'électricité.
Donc là, évidemment, dans vos métiers, l'évolution est très rapide. Qu'est-ce qui vous semble intéressant et passionnant dans l'évolution et qu'est-ce qui vous semble inquiétant ?
Je dirais que ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'informatique et je trouve toujours ça passionnant parce que ça évolue et il y a toujours de nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Et j'ai tendance à être optimiste de nature, donc les nouvelles possibilités en général, j'ai tendance à dire on va trouver les bonnes utilisations. Il y a des choses que sur le papier pourraient me faire un peu, pourraient me faire un peu peur. Les possibilités en mains de l'intelligence artificielle, par exemple, oui, éventuellement, il pourrait avoir de mauvaises utilisations. Les réseaux sociaux ont amené énormément de choses superbes, ont amené aussi des choses de lesquelles on se les passerait bien. Mais j'essaie de comparer la vie aujourd'hui avec la façon de communiquer qu'on a, le fait qu'on est en train d'enregistrer cet entretien dans un smartphone qui a lui tout seul plus de puissance que tous les ordinateurs de la NASA qui ont mis à l'homme sur la Lune et qui nous permet d'être communiqués partout dans le monde. Je suis en déplacement actuellement à Lille. J'ai pu être en visioconférence avec mes enfants qui sont à Brest hier. Effectivement, il y a quelque chose qui ne sont pas super cool en ce que l'informatique nous a amené, mais je pense que le bilan global, il est très positif et va continuer à l'être. Et donc l'intelligence artificielle peut-être va nous amener des trucs qui ne sont pas super top, des deepfakes, et on va devoir apprendre à mieux distinguer la vraie vérité de la création d'intelligence artificielle, ça va être compliqué. En même temps, je pense qu'il va amener des choses super positives dans le domaine de la recherche, par exemple, dans les possibilités que ça va ouvrir. Ça va changer comment on fait beaucoup de choses, mais j'ai envie de croire que ça va être un changement positif.
Voilà, et donc pour l'humain qui est vous et qui travaillez donc dans ces domaines-là, vous sentez un avenir passionnant? Et puis est-ce que vous pensez que vous maîtriserez ces évolutions jusque quel âge, par exemple?
Là, c'est un sujet intéressant, surtout qu'on dit que les informaticiens, vers 35, 40 ans, commencent à s'éloigner un peu du monde de la technique. Et ça, c'est un peu un biais qu'on a, et qu'on a en Europe souvent, c'est qu'historiquement, on voyait les métiers technologiques comme une étape avant de passer à d'autres métiers, plus de management. Et je trouve que c'est dommage. Moi, j'adore dans mon métier le fait que j'apprends des choses nouvelles tous les jours. Je suis obligé, mais quand c'est des choses qui me plaisent, je ne vois pas ce besoin de se remettre en question comme une charge. Moi, j'ai bientôt 50 ans, j'ai des amis et des collègues qui sont près de 60 ans et qui continuent à aimer leur métier parce que justement, ils ne tombent pas dans ce côté-là de j'ai fait la même chose que quand j'ai démarré dans la boîte, ils sont tout le temps à apprendre. C'est exigeant, des fois on n'a pas trop envie de se remettre en question, mais bah, pour moi, il n'y a pas une limite. Je pense que j'aimerais bien faire toute ma carrière dans l'informatique et me dire, tiens, j'ai continué à apprendre des choses. Beaucoup de choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui n'existaient pas quand j'étais dans les bancs d'école d'ingénieurs. Donc, je les ai appris sur le tas et je suis sûr que d'ici à que je partirai en retraite, bah, il y aura plein d'autres choses que j'aurai appris. Il faut par contre savoir accompagner les informaticiens en ça. Et ça, c'est une responsabilité que toutes les boîtes d'informatique devraient prendre en compte. Il faut aussi accompagner, donner l'envie à ses collaborateurs de continuer à apprendre. Parce que sinon, ce n'est pas bon pour l'entreprise. Mais c'est surtout non plus pas bon pour les collaborateurs qui se verraient enfermés dans des technos qui ne sont plus utilisés. Donc, comme je dis, personnellement, c'est une chose que j'aime, mais je travaille dans une boîte qui m'encourage et qui me donne les possibilités de continuer à apprendre des choses nouvelles. Et donc, si on n'a pas cet environnement qu'aide, effectivement, je comprends qu'au bout d'un moment, on puisse avoir envie de changer vers d'autres branches qui n'aiment pas ces pressions-là. Ce n'est pas un problème de l'informatique, c'est un problème que certaines boîtes n'ont pas compris que les informaticiens doivent investir du temps et l'énergie pour rester pertinents.
Est-ce que vous pensez que le droit du travail, ça existe dans certains pays, pourrait imposer des quotas de mise à jour, on va dire, pris sur le temps de travail, mais qui permettent de se former, alors soit collectivement, soit individuellement. Est-ce que c'est envisageable pour vous?
Déjà, on a la chance en France d'avoir des temps alloués à la formation. On peut penser ce qu'on veut, mais quand je vois d'autres collègues dans d'autres pays, voir choses comme les jours de formation auxquels on a droit sont plutôt intéressants, je pense que dans certains corps de métier, je ne sais pas si ajouter encore quelque chose au code de travail serait la bonne façon, mais je pense peut-être les branches de l'informatique, les entreprises de la branche collectivement, je ne sais pas quelle façon devrait prendre, mais ça serait bien s'il y a ces notions-là dans ce type de métier et dans plein d'autres, mais je parle de la partie que je connais, il faudrait donner des temps sur le temps de travail pour permettre aux gens de se maintenir au courant parce que les évolutions sont très rapides et quelques heures par année, ça suffit pas normalement. Donc, je ne me prononce pas sur la forme, mais pour moi, ça serait une très, très importante initiative.
Donc la responsabilité sociétale des entreprises, pour vous, ça semble important. Le droit du travail aide parfois à forcer les plus réticents, ceux qui ne veulent pas trop y aller. Il va falloir quand même le faire, parce qu'autrement, à 50 ans, les gens seront déconnectés. Et là, on voit faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, par exemple. Mais si les gens sont complètement à côté de leur métier, c'est impossible.
Là, je suis complètement d'accord qu'il faudrait d'une façon ou d'une autre que ça soit fait, effectivement, avec par exemple l'intelligence artificielle qui arrive, mais après n'importe quel déchassement technologique qu'on a eu dans les dernières 20 ans, je n'imagine pas un informaticien qui a commencé sa carrière en début des années 2000 et qui aujourd'hui continuer à faire la même chose, ça n'existe pas. Donc pour moi, le poids de ces formations-là, idéalement, ne doit pas tomber que sur le temps libre des collaborateurs. Et on le voit aujourd'hui, on est dans une conférence de Fest Lille, où justement, il y a un millier de développeurs qui sont ici pour découvrir de nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles choses. Et ça, ça fait partie de la démarche. C'est des temps pour aller voir une conférence, de quelles sont les tendances, comment est-ce qu'on fait pour s'incorporer, avoir un peu de temps pour tester tout ça ensuite. Et c'est une démarche gagnant-gagnant. Les entreprises gagneraient parce que ces nouvelles technologies arriveraient plus vite et les salariés gagneraient parce qu'ils garderaient l'enthousiasme et ils seraient toujours formés. Donc pour moi, c'est carrément c'est une démarche de responsabilité, non seulement sociale, c'est une démarche intelligente aussi pour les entreprises.